Bonjour. En fait, j'ai une question pour chacun d'entre vous, mais pas liée. Donc, comme les deux, vous répondrez peut-être chacun votre tour. Ma première question, c'est par rapport à tous les fonds, pour vous, tous les fonds que vous avez pu collecter, tous les documents que vous avez collectés, qu'est-ce que vous pensez en faire après? Donc, est-ce que vous pensez les donner, les léguer à quelqu'un, à un centre, peut-être un centre d'archives, ou je ne sais pas, mais pour la suite de l'histoire, peut-être pendant 200 ans, savoir ce qu'ils vont devenir. Et ma deuxième question, c'est que vous avez parlé que vous récupérez tout ce qui est petite presse. Alors, c'est peut-être une question un peu bête, mais je me demandais, est-ce que vous avez sûrement de la presse politique? Est-ce que vous avez aussi bien la presse d'extrême gauche que d'extrême droite, de tous les... ou est-ce que vous avez un choix et que vous
Non, mais
refusez
là,
des choses?
il n'y a pas de limite. Hein. Ça passe pendant le micro. Pas de Front National chez nous.
On
en a eu, hein. On a eu un fanzine. Enfin, c'est vachement bizarre parce qu'on nous a donné un autre fanzine et il y avait une couverture d'un fanzine punk. Et en fait, c'était un fanzine de nazi en dessous. Ils avaient collé la couve. Je ne sais pas si dans un stand, le mec, il faisait semblant de lire un truc très punk. Et en fait, il disait, ça s'appelle, je ne sais plus quoi, Jeunes et vainqueurs, ou, enfin, une espèce de nom. Bien craignos. C'était vachement bizarre, quand même. Et on s'est fait aussi avoir un moment, parce que quand on parle de petite presse, ou de presse parallèle, ou de presse contestataire, ça ne veut pas dire d'extrême gauche, forcément, quoi. Et on a eu, mais tout à fait au début de l'assaut, hein, on a acheté un petit manuel et on s'est rendu compte que c'était que des trucs qui craignaient complètement, quoi, que de la presse nazie. Mais j'en ai conservé un, hein, fanzine, mais j'ai créé exprès pour lui une section en fer.
Pas du tout ce que je veux faire de ces archives, dans la mesure où elles ne m'appartiennent pas, je pense que je vais les rendre à leurs propriétaires. Voilà. Du reste, de toute façon, je pense que c'est des choses qui évoluent aussi de leur côté. Je veux dire, voilà, maintenant, Domi est mort cet hiver, ils ont décidé aussi de faire des choses de leur côté. Donc voilà, il y aura sûrement des trucs qui vont sortir, il y aura des choses. Voilà, après les archives, moi j'ai les boucles de Motch, les boucles de Fan, les cassettes VHS, tout ça. Moi, je vais les rendre à leur propriétaire, c'est bien la moindre des choses. Voilà, moi je suis un emprunteur, encore une fois je suis un intrus, hein, quelque part, à une pose comme telle. Et je pense qu'elles retourneront dans leur bibliothèque et dans leur cassette de tête. Alors après, ça c'est autre chose. Moi, qu'est-ce que je vais faire de mon travail? Comment est-ce que je vais articuler effectivement de l'écrit et du son, voire de l'image? Ça c'est un peu compliqué encore à réfléchir aujourd'hui dans cette voie. Mais bon, j'en suis pas encore là.
Oui, justement, Thomas, ça me fait penser à une question. Justement, les matières ne vous appartiennent pas. Vous avez certains droits verbaux, des accords avec les gens, mais justement, est-ce que vous formalisez ces accords avec quelque chose, ou justement, vous n'allez pas créer un produit commercial à partir des archives, comme vous dites, ils ne vous appartiennent pas. Mais est-ce qu'il y a des cas dans la recherche, quelqu'un ici ou de vous-même, où vous négociez certains droits pour la recherche en écrit?
Ça participe exactement de cette économie morale que j'ai évoquée. Un des trucs qui m'avait beaucoup frappé quand je les ai rencontrés au début, c'est qu'ils n'arrêtaient pas de me parler de leur sincérité. Voilà. Et bon, je n'étais pas préparé, je ne savais pas exactement ce que c'était. Et en fait, c'est exactement cette économie morale. Je veux dire, voilà, il n'y a pas d'accord écrit. Moi, j'aurais proposé, hein, je vais signer un papier, je suis dépositaire de vos archives. Je ne vais pas vous raconter, mais pour préparer cette séance, j'ai appelé Phil. Et je lui dis, voilà, il y a quatre morceaux, parce que tu m'as filé, il y a quatre morceaux inédits que personne n'a jamais entendu. Est-ce que tu m'autorises à les passer, voilà, en sachant qu'il n'y aura pas d'enregistrement, que ce n'est pas des choses qu'on trouvera sur YouTube ou sur Facebook, j'espère. Et Phil m'a dit, mais évidemment, tu le fais. Voilà, tu sais gérer, tu es grand. Mais bon, moi, je me sens l'obligation de lui demander, si vous voulez. Il y a des photos, j'ai eu un photographe, Laurent Cassagne, au téléphone, qui a beaucoup photographié Internet vers 1987-89. Il est évident que voilà, si j'ai des photos à mettre, j'appelais pour autre chose, mais on en a parlé, il m'a dit, écoute, si tu veux mettre quelques-unes de mes photos dans ton bouquin, n'y a pas de problème, simplement tu me préviens avant, on regarde s'il y a... Ce n'est pas des histoires de droit, ce n'est pas des histoires d'argent. Bon, alors après, il y a des choses compliquées. Je vous dis, quand je vais chercher des choses sur Internet, effectivement, la personne dont vous avez eu le témoignage Facebook, je lui ai renvoyé il y a deux jours un petit message privé en disant « Est-ce que tu m'autorises à montrer ce que tu m'as écrit ?» Il m'a dit « Cool, vas-y, voilà. » En général, il n'y a pas de problème. Mais voilà, en même temps, il faut être prudent en maniant ces choses-là. Alors avec les OTHI, il n'y a pas de problème parce qu'on est dans des relations, si vous voulez, qui sont de l'ordre à la fois professionnel, en même temps, qui vont bien au-delà. Et donc, les questions ne se posent pas comme ça, ne se posent plus comme ça, en tout cas aujourd'hui, parce que ça fait 3 ans que je travaille dessus et que le temps aussi, le travail, c'est le plus possible.
Moi, je voulais rebondir sur une phrase que tu as dite au début de ton intervention. Je me permets de te tutoyer parce que j'ai vraiment beaucoup de sympathie pour le travail et vraiment respect pour ce travail-là. Et tu as dit au début, mais nous, voilà, la Fascinothèque, c'est la presse vivante, c'est pas encore dans le musée. Comme si finalement il y avait quelque chose qui allait se figer dans le sens d'être dans le musée, mais finalement dans le sens d'archiver aussi, peut-être ce qu'on évoquait ce matin. Hein. Et en même temps, je trouve que dans ta démarche, tu parles, et dans ton vocabulaire, tu parles de collection, tu as une véritable méthodologie, donc tu es même sur des termes oui, muséales. Et. Non, mais tu as une méthodologie, quoi. Donc, ça, c'est.
Oui,
mais, ça crée des outils qui font archive d'eux-mêmes, en fait.
Ouais.
Hein, c'est ça. Et s'il y a tout cet intérêt pour la mémoire collective et cette idée de transmettre, de diffuser. Donc, on se demandait ce matin à quoi ça sert les archives. Moi, je crois que tu as répondu.
Je pense que c'est pour ça que je voulais lire le témoignage de ces gens, parce que nous, des fois, à la Fanzine, on se demande un peu pourquoi on bosse.
Voilà,
et quand tu vois ça après, ces personnes, elles sont venues à Poitiers, quoi.
Et voilà.
Et nous, bah, le mec, il est venu avec ses petits-enfants, il leur a montré ces objets-là. Ils étaient vachement contents. Et ça fait du bien, quoi. Ça fait plaisir. Donc là, on n'est pas perdu.
Bonjour. Moi, deux remarques et une question. Ce que vous avez dit sur les fanzines de musique, moi j'ai eu des problèmes similaires dans mes recherches sur le cinéma bis, cette série B, où c'est la même question et on ne peut même pas se fier sur les dates de sortie des films ou quoi que ce soit pour dater un fanzine ou quoi que ce soit. Ma seconde remarque, c'est que j'ai été pendant un numéro et demi dans un fanzine et je pense que très clairement, la sortie, il y a une part de fétichisme et il y a aussi une part, c'est qu'on était à la fin d'un concert à la Miroiterie, on avait vu, on s'est dit, ouais, ce serait cool de faire un fanzine et on mettrait punk dans le nom et voilà. Et, mes questions, c'était peut-être que vous n'avez pas d'angle d'analyse ou pas, mais il y a quelle proportion de fanzines, non pas en couleur, mais de fanzines qui ont été imprimés sur des pages genre jaune, bleu, etc. Parce que fatalement, on les fait, on les imprime sur des pages blanches et c'est du noir, donc c'est noir et blanc. Mais est-ce qu'il y en a beaucoup des fanzines avec des couleurs dedans?
Non, il n'y a pas beaucoup. La couverture est souvent en couleur, mais après, le papier couleur, ça coûte plus cher que le papier noir et blanc. Enfin, blanc plutôt. Et non, il y en a très peu, quelques-uns, oui, mais c'est vraiment, c'est infime. La couverture couleur. Et encore les premiers, c'est pas ça. Et c'est même pas recto verso.
Alors, on a le temps pour une dernière question, parce qu'il faut qu'on passe rapidement à la table ronde. Donc, deux dernières questions alors.
Merci beaucoup. Moi, donc, c'était sur la Fanzinothèque. J'avais pas vu Arsenal depuis longtemps, parce que moi j'étais sur Nantes, donc c'était quand même plutôt sans bornes, mais on se servait de Arsenal. C'était vraiment un outil décisif. Bref, mais moi ma question c'était, à un moment c'était sur les limites de ce que vous archivez ou pas, et je pensais à un truc, c'était les distros, enfin, les listes de distros avec des références vendues par correspondance, dont certaines, comme je crois que je me rappelle les arrangements à Bordeaux, où il y avait quand même en plus genre une interview d'un groupe ou des choses comme ça. Est-ce que, par exemple, la liste de distro, vous les gardez? Et par rapport à ça, ça me fait penser à un truc, c'est que souvent maintenant, les jeunes, enfin par exemple les étudiants, quand ils veulent faire des mémoires sur le net, sur ce qui se passe dans l'Indé, ils disent oui, par exemple, il y a des sites où il y a des gens qui vendent des disques, etc. Et ils zappent en fait des étapes, comme le fait que par le mail order, non pas l'email order, mais le mail order, on faisait des échanges comme ça. Et donc, il y a toute une partie souvent qui zappe dans les historiques. Et donc, vous, ça vous donne une nouvelle mission. C'est un moment, j'imagine, c'est d'expliquer, peut-être vous le faites à certaines personnes, qu'il y a des choses qu'on oublie dans l'histoire.
J'ai dû expliquer à ma nouvelle directrice, il n'y a pas longtemps, quand elle est arrivée, pourquoi je gardais aussi les catalogues de diffusion. Parce qu'elle ne voyait pas, c'était le fanzine. Je lui dis, si, dedans, il y a plein de renseignements, ça participe de l'histoire. Parce que ceux qui faisaient le fanzine distribuaient aussi. Bon, pour moi, c'est tout un... D'autant que ce sont souvent aussi des beaux objets avec une esthétique, et puis ce n'est pas des listes de diffusion, c'est que des labels indépendants, que des petites maisons d'édition. Pour moi, c'est la même chose.
Merci d'abord pour ces exposés très intéressants, pour avoir un petit peu participé quand même à cette époque. C'est vrai que ça fait 30 ans et qu'on trouve que, même sur Internet, finalement, il n'y a pas grand-chose. Comme vous l'avez dit, il y avait des choses sur les groupes phares. Mais finalement, pour un travail d'historien comme ce que fait Thomas Alloué, il y a assez peu de choses en fait, pour travailler. Donc, c'est très important, cet archivage. Et la dernière remarque, j'avoue, j'y avais pas pensé, mais c'est génial parce que nous, on faisait la distribution, on vendait les disques au prix coûtant, au prix où ils coûtaient. C'était un geste politique. Grâce à un trafic de timbres, on ne va pas rentrer dans les détails maintenant, etc. Mais sur les timbres, on mettait de la colle pour les récupérer. Et rien que ça, par exemple, je pense que pour un historien, c'est intéressant de savoir comment marchait cette économie. Elle ne marchait pas grâce à du bénéfice sur les ventes, elle marchait grâce à un fonctionnement du système, etc. Et ça dit beaucoup de choses parce que c'était quand même le système du rock alternatif, etc. Donc c'est même au cœur, en fait, de la compréhension de ce système, mais ça disparaît complètement si on n'a pas ces sources-là.
Je pousse le liste jusqu'à garder les enveloppes.
Moi, je regrette d'en avoir jeté. Je regrette d'en avoir jeté justement celle où...
Les enveloppes, quand les Tux nous envoyaient leur date de concert, et puis ils étaient dans...
Non, mais les gens mettaient des dessins dessus, en fait. Ils mettaient des bons anarchies autour du A, il y avait tout un tas de trucs comme ça. Bon, et ce que je voulais dire, je trouve que c'est bien d'avoir mis les deux communications l'une à côté de l'autre, même si c'est peut-être un hasard, mais c'est des hasards aussi productifs. C'est que, à la fois, vous faites un travail incroyable à la fanzinothèque d'archivage, on se dit c'est incroyable cette masse de fanzines qu'il y a, et on voit le besoin aussi qu'il y ait des historiens comme Thomas, c'est-à-dire pour penser les archives. Parce que la remarque que vous avez faite justement, est-ce que vous gardez les archives de fanzines facho? Et puis on se dit, bon, on va pas vous demander de faire ça, quoi, d'accord. Mais en même temps, c'est intéressant, c'est que très souvent, les gens qui pouvaient être dans des fanzines facho pouvaient être dans des groupes punk, se fréquenter, etc. C'est ce dont, non pas qu'on s'aperçoit aujourd'hui, mais qu'on reconnaît dans nos travaux, les regards sur cette époque. Moi, dans mon fanzine, le premier numéro, il y avait une interview d'un groupe qui s'appelait Vortex. Mmh. On ne savait pas que c'était des fachos, c'était des punk skin oil. Ouais, j'avais 14 ans, je demande une prescription pour ça, on en a beaucoup voulu, tout ça. Mais il se trouve que voilà, c'était un groupe en fait étiqueté un peu facho, qui devait traîner avec des punks aussi, etc.
Ouais, je parlais des vrais fachos.
Oui, je sais, mais ce que je veux dire, c'est que c'est intéressant du coup qu'il y ait des historiens, des gens qui travaillent sur ces travaux-là pour dire bon, comment aussi se construisent ces oppositions, comment elles peuvent être acceptables dans un concert ou dans une salle de répète, mais pas dans un fanzine, parce que ça devient ses traces, etc.
Après, il y a plein d'interviews dans les fanzines, il y a plein de polémiques justement avec les groupes et des droits de réponse, enfin, il y a aussi, on peut trouver aussi beaucoup de choses.
Ouais. Merci.